RFI 6h30 en temps universel et à Abidjan, 2 heures de plus ici à Paris. Le journal avec Nemo Ampi, c'est ce vent d'apaisement en Côte d'Ivoire dans l'enseignement public.
Après 5 jours de grève, un nouveau calendrier de discussion a été établi et une assemblée générale des leaders syndicaux est prévue ce jeudi. Eux dénoncent des violations répétées du règlement intérieur, une attitude méprisante du président de l'Assemblée nationale et un manque de courtoisie inédit. 35 députés de l'opposition sénégalaise boycotteront lundi une séance de questions d'actualité. La Mauritanie, l'un des rares pays stables de la région, selon le président tchèque qui salue une coopération dans le cadre de l'OTAN pour faire face, entre autres, aux menaces terroristes. Le ton n'a cessé de monter entre l'Algérie et le Mali depuis une dizaine de jours et un incident à leur frontière. Et voilà que tous deux s'adressent au Conseil de sécurité des Nations Unies sans toutefois lui réclamer d'actions spécifiques. Un mot de sport, on connaît les derniers carrés de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et puis quelques notes de balafon, c'est au Djeguele Festival en Côte d'Ivoire que l'on referme cette édition. 5 jours de grève dans l'enseignement public et finalement la reprise d'un dialogue entre partenaires sociaux et gouvernement en Côte d'Ivoire. Deux camps qui se sont retrouvés hier pour tenter d'apaiser le climat social. On retrouve Binta Diagne à Abidjan.
Après plusieurs heures d'échange, un nouveau calendrier a été établi. Des ateliers auront lieu en fin de semaine prochaine, du 17 au 19 avril. Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la trêve sociale qui prévaut jusqu'en 2027 et à solliciter les instances mises en place à cet effet en cas de revendication. Mais une question reste en suspens, la situation des syndicalistes interpellés ces derniers jours en marge de la grève. David Bliblé, le porte-parole de l'IS MENA.
Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024.
D'après le ministère de l'Éducation, plusieurs revendications ont déjà été satisfaites. Seule la question de l'octroi de primes fait blocage, car cela implique un arbitrage beaucoup plus large. Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement.
Vous avez plusieurs secteurs qui demandent des primes. C'est ce qui justifie la mise sur pied de ce comité d'experts. Avec ces rencontres, ils ont pu évaluer et c'est autour de 400 milliards. Mais qu'en est-il des autres secteurs? On ne peut pas régler les problèmes point par point. On met tout cela dans un cadre global de réflexion.
Les leaders syndicaux doivent consulter leur base au cours d'une assemblée générale ce jeudi pour décider de la levée du mot d'ordre de grève. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
J'ajoute qu'Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition d'un enseignant syndicaliste condamné mardi soir à 2 ans de prison ferme pour entrave au fonctionnement du service public par le tribunal des flagrants délits. L'ONG demande aux autorités ivoiriennes de garantir le droit à la négociation collective et à un procès équitable.
Au Sénégal, ils seront 130 au lieu de 165.
Oui, puisque 35 députés de l'opposition vont boycotter la séance de questions d'actualité menée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Elle devait se tenir ce jeudi avant d'être finalement reportée à lundi. L'opposition dénonce plusieurs dysfonctionnements au sein de l'Assemblée nationale. RFI Dakar, Léa Lisa Vesteroff.
Les 35 députés de l'opposition dénoncent des violations répétées, je cite, du règlement intérieur, mais plus globalement une attitude méprisante vis-à-vis de l'opposition de la part du président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, et un manque de courtoisie inédit selon le parlementaire Tierno Alassane Sall.
Cette attitude, jamais vue d'un président de l'Assemblée nationale depuis Lamine Gueye, n'honore pas l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous demandons en conséquence au président de l'Assemblée nationale de se ressaisir pendant qu'il est encore temps, de se débarrasser de ses habits de militant et d'être à la hauteur de la dignité de son rang pour incarner celui-là même qu'il doit être.
Autre point de crispation, une Assemblée nationale qui serait aux bottes du pouvoir exécutif, selon Aïssata Tall Sall, chef du groupe parlementaire de l'ex-président Macky Sall.
L'Assemblée nationale, si on laisse cette institution être à la remorque de l'exécutif, si on laisse cette institution être banalisée à tel point que elle ne représente plus ce qu'elle doit être dans une démocratie et dans une république, alors nous en serons les responsables.
Les députés de l'opposition promettent d'interrompre leur boycott dès que l'activité parlementaire et l'adoption de nouvelles lois aura repris. Mais pour la séance d'information du Premier ministre lundi, les fauteuils de l'opposition resteront vides. Léa Elisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et sachez par ailleurs que 23 députés de l'opposition ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de la loi d'amnistie révisée, adoptée la semaine dernière par le Parlement. Des soldats tchèques en Mauritanie pour former une nouvelle unité militaire dans le cadre de l'OTAN, qui place Nouakchott au cœur de sa stratégie sécuritaire dans la région du Sahel. C'est désormais la seule mission tchèque dans la région depuis le départ de ses soldats formateurs au Mali. Actuellement au Ghana, dans le cadre d'une tournée, le président tchèque était en Mauritanie cette semaine et a salué cette coopération. À Prague, la correspondance d'Alexis Rosenzweig.
La Mauritanie est l'un des rares pays stables de la région. C'est le point sur lequel le président tchèque a insisté lors de son passage à Nouakchott en début de semaine. Peter Pavel est lui-même un ancien général et un ancien dirigeant de l'OTAN. Et c'est dans le cadre de l'organisation transatlantique qu'une vingtaine de soldats tchèques participent actuellement à la formation d'une nouvelle unité de l'armée mauritanienne. L'objectif affiché est que cette unité puisse faire face aux menaces terroristes, aux groupes criminels, ainsi qu'à l'influence de forces hostiles dans la région du Sahel, sous-entendu la Russie, comme l'a précisé le gradé en charge de cette formation aux médias tchèques. Le Parlement tchèque a validé l'envoi d'un maximum de 30 soldats pour cette mission de formation, qui a débuté au mois de janvier. Précédemment, l'armée tchèque avait dirigé la formation européenne des forces armées maliennes et Prague avait accepté, à la demande de Paris, de participer à la force Takuba avant sa dissolution. La mission de formation tchèque en Mauritanie est pour l'instant prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
Toujours pas de sortie de crise entre l'Algérie et le Mali.
Après la destruction, il y a 10 jours maintenant, d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays. Depuis, les coups pleuvent, rappel des ambassadeurs, fermeture des espaces aériens ou encore accusation par communiqué interposé. Des postures souvent violentes, parfois menaçantes. Et l'on apprend que Bamako et Alger ont chacun sollicité le Conseil de sécurité des Nations Unies sans pour autant le saisir officiellement. Explication David Baché.
Par ces deux lettres datées du 7 avril et que RFI s'est procurées, Bamako et Alger transmettent au Conseil de sécurité leurs communiqués gouvernementaux respectifs. Les positions sont connues, Bamako condamne un acte hostile et accuse Alger de soutenir le terrorisme. Alger dénonce des violations de son espace aérien et une stratégie mensongère des dirigeants maliens de transition. Bamako avait annoncé une plainte à venir devant les instances internationales pour acte d'agression, mais cette sollicitation du Conseil de sécurité relève de la stricte transmission de documents et n'est d'ailleurs accompagnée d'aucune demande particulière. Une source diplomatique au sein du Conseil de sécurité précise « Ni le Mali ni l'Algérie n'ont sollicité de réunion sur le sujet. Ces courriers n'appellent donc pas d'action spécifique du Conseil. » Coïncidence cocasse, en ce mois d'avril, c'est la France qui assume la présidence tournante du Conseil de sécurité, où l'Algérie siège également en tant que membre non permanent. « C'est très courant », décrypte un juriste spécialiste des protocoles onusiens. Les États notifient le Conseil lorsqu'ils considèrent qu'un autre État menace la paix internationale. Juridiquement, poursuit cet expert, cela permet aussi de notifier son désaccord et de préparer d'éventuelles représailles.
De son côté, la CDAO appelle les deux pays au dialogue. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l'organisation ouest-africaine exprime son inquiétude face à la dégradation des relations. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest demande à l'Algérie et au Mali de désamorcer la tension, de favoriser le dialogue et d'utiliser les mécanismes régionaux et continentaux pour régler leurs différends. Au Nigeria, le gouvernement fédéral tente de reprendre la main sur le secteur pétrolier. La production nationale est au plus bas. Les prix en chute libre après les dernières sorties de Donald Trump, le président américain. Et Bola Tinubu, le président nigérian, a limogé il y a une semaine une dizaine de hauts cadres de la compagnie pétrolière nationale. Et finalement, les autorités ont annoncé que les raffineries locales pourraient continuer à payer en Naira pour s'approvisionner en pétrole brut. Plus de détails avec Lisa Fabian.
La politique de vente de pétrole brut et de produits raffinés en Naira sur le marché nigérian reste en vigueur et le restera tant qu'elle est conforme à l'intérêt public et qu'elle soutient les objectifs économiques nationaux, précise le communiqué du ministère des Finances publié ce mercredi. L'initiative Naira contre pétrole brut vise à soutenir le raffinage local, à renforcer la sécurité énergétique et à réduire la dépendance aux devises sur le marché intérieur du pétrole, souligne ce communiqué. Ces dernières semaines, un bras de fer d'affaires s'était engagé entre la compagnie pétrolière nationale, la NNPC, et le milliardaire Aliko Dangote à la tête d'une méga raffinerie à Lagos. Forcé de payer son pétrole brut en dollars, le Mania a cessé d'écouler son carburant sur le marché local, ce qui a entraîné une augmentation des prix de l'essence au Nigeria ces derniers jours. Le revirement opéré par le gouvernement fédéral sur le sujet fait également suite au limogeage de 11 dirigeants de la NNPC la semaine dernière par le président Bola Tinubu. Une intervention présentée comme décisive pour relancer la production pétrolière nationale en baisse et restaurer la crédibilité de l'entreprise publique entachée par des soupçons de corruption.
Lisa Fabian, du sport et du football, on connaît la quatrième équipe qui vient compléter le dernier carré de la Ligue des Champions. Ce sera les Sud-Africains d'Orlando Pirates après leur match nul et vierge contre le Mouloudia d'Alger hier soir.
Et on connaît également les quatre demi-finalistes de la Coupe de la Confédération.
Parmi eux, on attendait pourquoi pas le Zamalek tenant du titre, mais les Égyptiens sont tombés face aux novices sud-africains de Stellenbosch. Le résumé de la soirée signé Sofiane Amazian.
C'est une qualification inattendue pour une toute première participation. Face au vainqueur de la saison dernière, le Zamalek, Stellenbosch aurait pu nourrir un complexe d'infériorité. Pas du tout, nul à l'aller du côté de l'Afrique du Sud, victoire au Caire 1-0 grâce à Sylvain Ndouli en fin de rencontre. Pas de doublé donc pour les Kérotes. Berkane de son côté, finaliste malheureux en 2024, poursuit sa route. Les Marocains atteignent le dernier carré pour la troisième fois en 4 ans, qualification logique, mais terne face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, 1-0 lors du premier match, même score à domicile. Plus spectaculaire cette fois, la remontada des Tanzaniens de Simba, menée 2-0 à l'aller par les Égyptiens d'Al-Masri. Les coéquipiers de l'attaquant congolais Elim Panzou, buteur à Dar es Salaam, ont tout renversé. Victoire 2-0 au retour, puis qualification acquise au tir au but. Enfin, dans le duel 100% algérien, avantage Constantine qui va découvrir les demi-finales de la compétition pour sa troisième participation. Qualification obtenue sur le terrain de l'USM Alger, un partout dans le temps réglementaire, puis victoire au tir au but.
Sofiane Amazian, et puis on jouait également en Europe les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 sur sa pelouse face à Aston Villa. Le PSG menait 1-0 qui a su remonter avec début de Désiré Doué, Gvaraj Kelia et Nuno Mendes. Le FC Barcelone s'impose également sur sa pelouse 4-0 face au Borussia Dortmund avec un doublé de Robert Lewandowski.
Allez, la fin de ce journal, Nemo à Boundiali dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire.
Où se tient jusqu'à samedi le Djeguele Festival, 9e édition. Djeguele comprenait balafon en langue sénoufo. Cet instrument composé de calebasse et de lames de bois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, un festival qui réunit des artistes venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Reportage Frédéric Gara.
C'est ainsi que Kone Dodo, le directeur du Djeguele Festival, a eu l'idée d'organiser ces rencontres où les artistes viennent des quatre coins de l'Afrique de l'Ouest.
Vous savez, le balafon est un instrument fondamental chez les peuples sénoufos. À la naissance, nous on joue du balafon, parce qu'on est content. Au chant, le balafoniste joue pour encourager ceux qui labourent. Parce qu'il y a un décès, le balafon est présent dans une intonation particulière pour dire que c'est triste et qu'il y a quelqu'un qui part. En fait, le balafon ponctue la vie du peuple sénoufos de la naissance à la mort. Donc c'est un instrument important que nous avons voulu magnifier à travers ce festival.
L'une des invitées d'honneur de cette 9e édition, la chanteuse burkinabé Hamza Bari.
Mais avec le festival, on se retrouve et c'est voilà pourquoi on parle de nos ancêtres, de tout ce qui vient de chez nous. La cohésion, le fait d'être ensemble ici et se retrouver, faire la fête ensemble et danser au son du balafon.
Chanter et danser au Djeguele Festival, mais aussi transmettre une tradition musicale ancestrale avec des rencontres et débats ponctués de quelques coups de bayoche sur 12 lames de bois. Frédéric Gara, Boundiali, RFI.
Et c'est à Boundiali et en musique que se referme ce journal, Clotilde.
Et merci beaucoup, c'était le journal de Nemo en Peace.